RCF. Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Anne Kerléo.
Et un mardi par mois, dans Je pense donc j'agis, on regarde dans le rétroviseur pour se pencher sur quelques sujets d'actualité de l'écologie du mois avec des observateurs experts pour la commenter. Et l'Europe sera au cœur de cette émission aujourd'hui, avec au sommaire le rejet par le Sénat jeudi dernier du CETA, traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Ce rejet est le fruit d'une alliance gauche-droite de circonstances. Quels en sont l'impact symbolique et les conséquences concrètes? On en parle dans un instant. Europe et écologie encore avec le pacte vert européen. Nous essaierons d'en faire un état des lieux à 3 mois des élections européennes. Qu'en reste-t-il après le détricotage, disent certains, d'un nombre important de mesures? Quelles sont les propositions des différentes forces politiques et les perspectives selon les résultats des élections? Et puis, le passé étant toujours riche d'enseignements, nous nous pencherons sur un rapport de l'ONG Bloom consacré au vote sur l'environnement au cours de la mandature qui s'achève des 8 groupes politiques siégeant au Parlement européen. Résultat, le Parlement est divisé en 3 groupes très polarisés que les auteurs de l'étude nomment les bâtisseurs, les casseurs et les hypocrites. On en dira plus tout à l'heure. Dernier sujet de cette émission, les polluants éternels, les PFAS. Une proposition de loi visant à les interdire sera examinée à l'Assemblée la semaine prochaine, le 4 avril, portée par les écologistes. Et puis, à Lyon, la métropole attaque en justice 2 géants de la chimie accusés de diffuser ces polluants. Et les habitants proches de ces usines se sont vus déconseiller par l'État la consommation de l'eau, de fruits et de légumes de leur potager. Voilà le menu. Pour participer, vous laissez vos messages par mail à l'adresse direct@rcf.fr, dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis, et vous venez à l'antenne au 04 72 38 20 23 où Catherine vous attend.
Je pense donc j'agis, 04 72 38 20 23.
Et pour commenter l'actualité, ils sont 3 à nous accompagner jusqu'à 10h, à commencer par Anne-Sophie Novel. Bonjour Anne-Sophie.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, auteure, réalisatrice, spécialiste des enjeux environnementaux et de leur traitement médiatique. Votre dernier livre en date, paru l'année dernière, en 2023, chez Actes Sud, dans la collection Je passe à l'acte, a pour titre « Mieux s'informer ». Notre deuxième intervenant, c'est vous, Benoît Hervieux-Léger. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à la revue Projet, revue jésuite éditée par le CERAS, association dirigée et animée depuis le début du XXe siècle par les jésuites. C'est une vieille maison qui vise à promouvoir et à développer une réflexion sur les questions politiques, économiques et sociales de notre temps à la lumière de la foi chrétienne et de la pensée sociale de l'Église. Et enfin, bonjour à vous, Adrien Loindre.
Bonjour.
Chrétien engagé sur les questions d'environnement et de justice sociale, vous avez été chroniqueur dans cette émission et puis éditorialiste de la matinale RCF. Et désormais, vous revenez de temps en temps dans Je pense donc j'agis pour commenter l'actualité de l'écologie. Je précise que vous êtes membre du jeune collectif chrétien écolo Lutte et Contemplation qu'on entend de temps en temps sur notre antenne et qui a vu le jour il y a quelques mois, c'était au mois de septembre. Merci à tous les 3 de participer à cette émission. Je vous propose qu'on entre tout de suite dans le premier sujet, le rejet par le Sénat jeudi dernier du CETA, traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Alors, il s'agit d'un traité dit de nouvelle génération parce que il ne s'applique pas seulement aux droits de douane, contrairement aux accords de libre-échange traditionnels. En fait, ce traité, il est déjà partiellement en vigueur depuis septembre 2017. Depuis cette date, la partie qui dépend de la compétence exclusive de l'Union européenne est en vigueur, ça représente 90% du texte, mais il reste 10% qui relèvent d'une compétence partagée par l'Union et les États membres. Il s'agit des chapitres sur les investissements et le règlement des différends entre les entreprises européennes et canadiennes, et c'est là justement que ce traité est nouveau. L'application totale de l'accord ne sera possible qu'après sa ratification par les parlements nationaux des 27, et si jamais un seul de ces parlements ne ratifie pas le traité, alors c'est non seulement la partie non validée qui ne sera pas appliquée, mais c'est tout le traité qui tombera. Pour l'instant, 17 pays de l'Union ont validé le traité. Chypre a rejeté la ratification, mais le vote n'a pas été officiellement notifié aux institutions de l'Union. Donc, le traité continue de s'appliquer. Et si en France, le Sénat a donc rejeté jeudi le CETA, c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Alors, avant de s'interroger sur les conséquences du vote du Sénat, je vous propose qu'on s'arrête peut-être aux raisons pour lesquelles certains s'y opposent. De votre point de vue à tous les 3, sur le plan des enjeux écologiques, ce traité, je vais me faire candide, ce traité pose-t-il problème? Et si oui, pourquoi? Benoît Hervieux-Léger, peut-être pour commencer.
Oh ben, c'est un traité qui est effectivement qui pose un certain nombre de problèmes. Alors vous parliez effectivement du point de blocage autour de la question de la compétence des États, enfin ce qui relève de la compétence des États. S'il y a des arbitrages contre une multinationale. D'autre part, effectivement, il y a le deuxième point de blocage. Enfin, entre autres, était autour des normes environnementales qui, effectivement, n'ont pas le même niveau d'exigence entre du côté de l'Union européenne et du côté du Canada. Oui, c'est vrai que bien sûr, ce genre de traité aussi, c'est d'abord des traités commerciaux. La question environnementale n'est quand même pas si centrale que ça, quand même. Hein, il faut bien au départ. Malgré tout, alors évidemment, le vote du Sénat, il intervient pas dans n'importe quel contexte, en tout cas en France avec la crise agricole, parce que c'était quand même l'une des revendications, enfin l'une des protestations qui était mise en avant par des agriculteurs, notamment par des syndicats agricoles qui sont pas non plus toujours les plus soucieux d'environnement, hein, faut dire les choses comme elles sont, mais qui, en l'occurrence, faisaient valoir que il y avait pas cette clause miroir en matière de normes environnementales sur les produits exportés de part et d'autre.
Anne-Sophie Novel.
Moi, de ce que j'ai compris de ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quand même une sorte de déséquilibre où finalement l'accord me semble être un peu plus avantageux pour les agriculteurs français que canadiens. Mais plus fondamentalement, en effet, ce rejet a été décidé dans une période assez compliquée, on va dire, du point de vue agricole en France, avec la colère, les colères qui se sont exprimées. Il y a quand même eu plusieurs voix qui se sont élevées pour critiquer l'aspect climatique un peu dérangeant de cet accord, mais aussi des normes qui ne s'appliquent pas de la même manière. Même s'il n'est pas conclu, il est mis en œuvre il est surtout utilisé pour les exportations, on va dire, bovines. J'ai pu voir des personnes qui étaient mécontentes parce qu'elles exportent beaucoup de vin, par exemple, au Canada. Je pense que ça pose plus fondamentalement la question aujourd'hui de la manière dont notre système agricole est décidé par des accords internationaux de commerce international, et que c'est ça la vraie question que l'on devrait poser aujourd'hui, en fait. Les agriculteurs sont nombreux à se plaindre des normes qui pèsent sur leur métier, mais je trouve qu'il y a une voix qu'on entend plus, alors qu'on l'entendait il y a encore bien une bonne dizaine d'années, c'est celle de l'Organisation mondiale du commerce, qui en fait structure de manière déterminante aujourd'hui les échanges internationaux, et qu'on n'entend absolument pas justement sur ces échanges qui impliquent à la fois des échanges de CO2, d'eau et de certains nombres de produits phytosanitaires. Et donc pour moi, c'est ça qu'on devrait fondamentalement poser comme question à travers cet accord qui est aujourd'hui très décrié.
Ce qui peut paraître étonnant, pas forcément étonnant, mais différent de ce qui se passe d'habitude, Adrien Lande, c'est que sur cette question-là du CETA, mais plus globalement des traités de libre-échange, on voit une espèce de convergence entre écologistes et, alors pas tous les agriculteurs, on l'a dit, mais quand même une part importante d'entre eux, ce qui est une convergence pas évidente, parce qu'il y a traditionnellement plutôt une opposition entre écologistes et une certaine partie du monde agricole.
Effectivement, mais c'est vrai que là, les intérêts convergent, et puis je pense que et écologistes et agriculteurs ont une vision aussi de la démocratie, et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le CETA, quand il avait été voté par l'Assemblée nationale, ça avait été voté à 6h du matin, enfin voilà, il y a toute cette histoire autour des tribunaux aussi, à l'intérieur du CETA, où en gros des entreprises privées pourraient attaquer les États qui posent trop de normes environnementales en justice, etc. Ça, je pense que c'est quelque chose qui parle un peu à tout le monde, mais après, je rejoins ce qui vient d'être dit par tout le monde, aussi dans le sens que c'est le concept même de faire des traités de libre-échange qu'il faut non pas arrêter mais questionner. Dans les débats sur le CETA, il y avait régulièrement mais si vous aimez pas les Canadiens, si vous faites pas de traité de libre-échange avec les Canadiens, oui, enfin ça n'a rien à voir. donc voilà, pour moi il y a des questions beaucoup plus de fond. On se questionne même pas sur est-ce que c'est utile, est-ce que c'est la société qu'on veut, quoi.
Benoît Rivière-Léger.
Oui, non, juste pour ajouter, pour abonder un petit peu dans ce que, par rapport à ce qu'Adrien vient de dire, c'est qu'il y a aussi un peu le spectre, enfin il y a l'ombre. Alors même si pour l'instant il est bon, il est rejeté, il est bloqué. C'est l'accord avec le Mercosur qui est aussi lourd de conséquences. Donc alors Mercosur, donc les quatre pays d'Amérique du Sud, donc Brésil, Argentine, Paraguay, Uruguay, bon avec Bolivie et Chili comme membres associés, mais qui est un traité où là aussi qui est quand même très coûteux justement. En termes de, alors sur les questions des normes environnementales, là, bon, c'est bon, notamment on parle notamment du bœuf ou des volailles brésiliennes, bon, où là effectivement les normes, bon, là il y a quasiment pas de normes sanitaires et environnementales telles qu'on les connaît côté européen. Et puis bon, oui, aussi des traités qui sont coûteux en termes de d'émissions de gaz à effet de serre, de retombées par rapport effectivement sur la question environnementale qui est quand même très présente dans le débat malgré tout. C'est-à-dire qu'effectivement ces traités sont questionnés aussi pour voilà.
Pourquoi c'est coûteux en termes d'émissions de gaz à effet de serre?
Bah, c'est-à-dire que vous avez de toute façon, ce sont des traités de libre-échange qui, notamment, bon, encouragent quand même une production massive, une exportation massive. Tout ça a un coût en termes d'environnement. Bon, et donc, bon, il y a effectivement une vraie crainte par rapport aux retombées. Alors du côté des écologistes, d'autre part, effectivement, il y a les intérêts. Alors ils convergent pas tout à fait, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a, on voit une convergence un peu inattendue entre écologistes et agriculteurs et partis conservateurs qui ont l'habitude de les défendre. Bon, les uns c'est plutôt quand même parce que effectivement il y a des distorsions de concurrence qui peuvent se présenter, puis de l'autre parce que effectivement il y a des effets environnementaux qui sont non négligeables.
Est-ce que cette convergence, qui vous le dites, ne se fait pas forcément pour les mêmes raisons, finalement, est-ce que c'est ça qui se reflète dans le vote qui a eu lieu au Sénat, avec une alliance assez inédite gauche-droite, qui a permis massivement en fait le rejet de cette ratification? Quel regard vous portez sur ce qui s'est passé au Sénat, Anne-Sophie Novel?
Bah, c'est assez symbolique et en même temps symptomatique aujourd'hui d'un certain nombre de choses qu'il faut remettre à plat pour arriver à repenser la durabilité de notre modèle de production et la manière dont on s'alimente aujourd'hui. Moi, c'est ça que je trouve qu'on a eu beaucoup de caricatures, que pendant longtemps la question écologique a été un impensé et qu'on se rend bien compte aujourd'hui que ça devient fondamentalement le cœur du problème. C'est ça qui est intéressant, c'est de prendre ce recul-là pour interroger en fait un système qui a atteint son point de rupture. Et c'est vrai qu'on a souvent opposé l'agriculture conventionnelle et les écologistes qui depuis très longtemps en fait critiquent en fait ce fonctionnement-là. Donc pour moi il y a vraiment un fonctionnement à mettre en cause. Et je comme je le disais, je pense que le système de commerce et de finance internationale aujourd'hui contraint les agriculteurs dans une logique qui n'est plus tenable. Voilà, c'est-à-dire quand on doit cultiver ici en France du maïs pour aller l'exporter, pour aller engraisser des bêtes à l'autre bout de la planète et ensuite réimporter cette viande, est-ce que c'est vraiment logique? Est-ce que c'est le modèle que l'on a envie de défendre qui engendre des transactions assez carbonées, mais aussi du coup une logique de performance où on va aller arroser les champs de produits phytosanitaires? Je pense que dans la colère agricole, c'est ce genre de choses-là qu'il faut questionner aujourd'hui. Et la situation est alarmante aujourd'hui.
Donc c'est évidemment des sujets dont on aura l'occasion de reparler dans cette émission. Pour ce qui est de l'avenir du CETA, on verra bien, puisque maintenant, de toute façon, c'est l'Assemblée qui aura le dernier mot. À supposer que l'Assemblée vote contre, on ne sait pas trop ce qui se passerait, puisque à Chypre, apparemment, où c'est ce qui s'est passé, le Parlement, qui est monocaméral, je crois, a voté contre. Et le gouvernement semble vouloir envisager un nouveau vote, mais sans en connaître l'issue. Et on dit que c'est peut-être ce qui pourrait se passer en France, si jamais il y avait un vote négatif à l'Assemblée nationale, mais donc affaire à suivre. Et puis il y a encore 8 autres pays qui n'ont toujours pas ratifié ce traité, qui donc est dans une situation un peu précaire, on pourrait dire.
Je pense, donc j'agis, Anne Kerléo.
Et dans la deuxième partie de cette émission, on continue de parler d'Europe avec le pacte vert européen, le fameux Green Deal. Il se présente comme une stratégie politique de transformation de l'économie européenne sur le long terme, de manière systémique, qui embrasse tous les secteurs, l'énergie, les transports, l'industrie, l'agriculture et l'alimentation, et puis la protection de la biodiversité, et le tout dans le cadre d'une transition juste qui ne laisse personne de côté, avec pour objectif majeur de transcrire l'accord de Paris dans les politiques européennes. Alors ça, c'est l'intention affichée. Mais de nombreux observateurs des enjeux écologiques dénoncent un détricotage en cours ou à venir du pacte vert, à venir selon le résultat des européennes de juin. Alors, quel est votre regard? Y a-t-il de votre point de vue déjà un détricotage à l'œuvre? Et si oui, pourquoi? Qui veut se lancer le premier? Adrien Moindre.
On pourrait dire que c'est assez contrasté parce que à la fois la loi sur le devoir de vigilance qui fait partie de tout ce pacte vert européen est quand même passée il y a quelques semaines. Le CCFD Terre Solidaire notamment saluait une victoire, donc c'est quand même quelque chose de très positif. Et en même temps, c'est quand même une loi, effectivement, vous l'avez très bien dit, Anne, qui a été détricotée, donc c'est assez disons que c'est assez modéré là-dessus. Et je pense que les élections européennes sont vraiment un référendum pour ou contre le Green Deal. C'est une des grosses questions. Il n'y a pas que cette question-là, en effet, mais c'est une des grosses questions. Et là où c'est détricoté en partie, vous avez dit, c'est quand même assez questionnant que Mme von der Leyen, qui donne une vraie vision, moi je ne suis pas forcément de son parti, mais je trouve qu'elle donne une vraie vision, un vrai horizon, il y a un cap, il y a du courage politique, je pense qu'elle a beaucoup de courage politique, et ce courage politique-là qui vient de la droite est aussi cassé en partie en interne par la droite, et j'avoue que moi ça me questionne particulièrement.
Alors on regardera tout à l'heure les votes justement au cours de cette mandature, mais Benoît Hervieux-Léger, sur cette question-là du pacte vert, détricoté ou pas?
Alors détricoté, c'est-à-dire que bon, on ne remet pas en cause, alors a priori, mais on va voir évidemment, on n'est quand même pas très loin d'un scrutin européen le 9 juin prochain, il faut quand même le rappeler, et cette question fait véritablement enjeu. Bon, en plus, encore une fois, au vu du contexte de la crise agricole, qui ne concernait pas que la France d'ailleurs, bon, la pression est européenne. Bah, si vous voulez, et puis bon, il y a plusieurs facteurs, c'est-à-dire qu'il y a bon la flambée des prix de l'énergie, les consommateurs d'énergie que nous sommes s'en rendent compte aussi sur leurs factures, sont des choses qui notamment dans le secteur industriel, il y a effectivement par rapport au pacte vert, il y a pas mal de contestations. Bon, encore une fois, il y a la crise agricole, c'est-à-dire que si on peut parler sans aller peut-être jusqu'à parler vraiment de détricotage, disons qu'il y a une véritable pression. À la fois sectorielle, politique, sur le texte. Et effectivement, il y a des signes qui ont quand même été envoyés par la Commission, par exemple, la reconduction, la réautorisation pour 10 ans du glyphosate. Il y a eu effectivement, il devait y avoir de nouvelles mesures sur le contrôle des substances chimiques ou sur le bien-être animal, je dis ça un petit peu en brassant large, mais auquel finalement Ursula von der Leyen a quand même renoncé. Donc, Emmanuel Macron lui-même a parlé de faire une pause. Voilà. Donc là-dessus, si vous voulez, il y a quand même, on sent que, justement, il y a une possibilité, c'est-à-dire détricotage encore en bonne et due forme, peut-être pas, mais en tout cas, effectivement, une pression qui pourrait compromettre une application future du texte, ça très clairement.
Anne-Sophie Novelle.
C'est ce que je disais un peu tout à l'heure sur ces questions agricoles. Là encore, on se rend compte qu'on est au pied du mur, qu'on a défini ce pacte vert pour s'aligner sur des objectifs énergétiques, sur l'usage des produits phytosanitaires, sur des questions aussi de justice sociale. Et les choses se tendent quand il s'agit de réellement rentrer dans le dur de ces politiques, et ce d'autant plus que nous avons bientôt les élections en effet en juin. Et là, en effet, on voit bien qu'il y a un recul. Alors pour moi, j'ai vu les premiers signaux de ce recul, il y a 2 ans, quand la guerre s'est déclarée déclaré en Ukraine, où on s'est dit qu'avec voilà, ces cartes qui étaient en train d'être rebattues au niveau de certains approvisionnements, certaines décisions qui avaient été prises, notamment pour sur le front du développement, par exemple, de l'agriculture biologique au niveau européen, Emmanuel Macron a commencé à faire des annonces à ce moment-là pour marquer un premier recul. Ensuite, on a eu d'autres débats sur le glyphosate et d'autres types de produits. Ursula von der Leyen, par rapport à des questions comme le loup, par exemple, a aussi des positions qui sont assez, qui vont pas dans le sens de la préservation de la biodiversité. Donc, pour moi, ce détricotage, il est assez réel et on doit être très vigilant. Il y a aussi ces questions de justice sociale qui commencent à ne pas être véritablement considérées pour l'ensemble des citoyens et citoyennes européennes. Donc, faut quand même rétablir un certain nombre d'ambitions si on veut vraiment être à la hauteur des enjeux qui nous concernent aujourd'hui.
Adrien Loindre.
Oui, tout à fait. Et là, ce que j'ai envie de poser comme question, c'est mais qu'est-ce qu'il y a en face? C'est-à-dire que si on dit on refuse le Green Deal, que c'est des partis qui vont beaucoup fustiger l'écologie punitive, une écologie qui serait loin des agriculteurs, même tout à l'heure dans le débat sur le CETA. Je pense pas que l'opposition, hein, qu'il y a beaucoup d'agris qui sont écolos. Moi, je connais aucun agri qui veut détruire sa terre, donc voilà. Mais la question en face, c'est moi, je veux bien qu'on dise, dans ce cas-là, on veut détricoter le Green Deal, on est contre le Green Deal. Mais qu'est-ce qu'on propose? C'est quoi la vision en face? Est-ce que c'est toujours une vision de compétitivité et puis où on agrandit les fermes? Et après, c'est-à-dire qu'à un moment, de toute façon, il faudra passer à une vision plus écologique, plus sociale, etc., etc. Et on ne pourra pas systématiquement faire une politique qui favorise les plus grands rentiers au détriment des petits agriculteurs. Donc, de toute façon, il va falloir changer. Le Green Deal est une très bonne chose. Il va falloir changer. Et moi, ce qui me questionne, c'est qu'il n'y a vraiment rien comme proposition en face, notamment par des partis comme le Rassemblement National, qui veulent se dire soi-disant défenseurs des agriculteurs, alors que et qui critiquent l'Europe systématiquement, alors qu'ils votent les traités de libre-échange au niveau européen.
Mais est-ce que finalement le problème c'est pas tant la vision que les questions de court terme, long terme, c'est-à-dire que sur le long terme finalement il y a une vision, vous le disiez tout à l'heure, mais quand on se heurte aux problèmes concrets, dans le moment où vous parlez beaucoup d'agriculture parce que on n'en est pas sorti d'ailleurs d'une crise agricole, et on voit que quand il s'agit de conjuguer les enjeux que vous évoquiez aussi de justice sociale et de fin du mois tout simplement, sur le court terme on va prendre des mesures qui vont permettre de penser sortir par le haut, mais en hypothéquant le long terme et l'écologie. Est-ce que c'est pas une question de rythme de la vie politique qui fait qu'on n'y arrive pas, en fait, Benoît Hervieux-Léger?
Rythme de la vie politique, certainement. Rythme institutionnel aussi, parce qu'il faut bien voir que derrière ces questions liées à l'environnement, liées au modèle de production, ces questions économiques, on oublie trop, on ne souligne pas assez, à mon avis, la dimension proprement politique et même institutionnelle. C'est quand même... Je lisais dans Le Monde, effectivement, sur la question effectivement de la mise en place du Pacte Vert. Pascal Canfin, qui était écologiste et qui est passé au groupe Renew, enfin donc le groupe auquel appartient le parti Renaissance d'Emmanuel Macron, disait le problème c'est qu'on a effectivement une commission qui produit des normes, mais qui n'accompagne pas suffisamment les États membres. C'est-à-dire qu'au niveau européen, et ça c'est un vrai enjeu par rapport au 9 juin, et là-dessus c'est dommage que ce ne soit pas assez dans le débat public, c'est une question aussi d'articulation entre effectivement le pouvoir réglementaire européen et la capacité capacité aussi à articuler, cette réglementation avec une mise en œuvre au niveau des États, et là-dessus les institutions européennes ne parviennent pas assez. Les États sont pas forcément demandeurs non plus. Il y a aussi des blocages. On a besoin de revendiquer sa souveraineté, etc., qui est très forte en ce moment. Mais il y a vraiment un enjeu démocratique par rapport à ça aussi, c'est-à-dire comment justement faire à la fois mieux accepter, mieux comprendre et rendre, le mot est à la mode, plus fluide, l'articulation effectivement dans la mise en œuvre de politiques qui, bon, de politiques publiques dont l'intention est bonne, qui nous concernent toutes et tous, mais qui sont malheureusement, qui sont facilement grippées, etc., par, alors bien sûr, il y a les pressions sectorielles, mais aussi, effectivement, un manque de cohésion et d'articulation entre les différentes échelles de pouvoir. Et ça, c'est vraiment quelque chose que, malheureusement, le débat, la campagne des européennes, bon, même si elle n'a pas complètement commencé, et malheureusement est assez muet là-dessus.
Bon, en vous écoutant, on se dit que ça va pas être simple pour les citoyens qui voudraient avoir cette grille de l'écologie, qui pensent que c'est vraiment ça le cap et la vision pour faire leur choix pour les élections européennes. Mais on va marquer une pause et juste après, justement, on essaiera de regarder un peu les différents groupes politiques et comment ils se sont positionnés sur ces questions d'environnement à travers un rapport réalisé par l'ONG Bloom et qui donne pas mal d'enseignements sur les votes pendant la mandature écoulée. On se retrouve dans un instant. Et comme un mardi par mois, on décrypte l'actualité de l'écologie du mois écoulé. On le fait avec Anne-Sophie Novel, Benoît Hervieux-Léger et Adrien Loindre. Alors, juste avant la pause, on parlait du pacte vert européen. On continue à parler d'Europe à travers un rapport de l'ONG Bloom. Alors, ce rapport classe en fait un peu les bons et les mauvais élèves de l'écologie, en tout cas des votes sur les sujets environnementaux pendant la mandature écoulée. Il les classe en trois groupes assez clivés. Alors il les appelle les bâtisseurs, les casseurs et les hypocrites. Ces huit groupes politiques du Parlement européen sont classés ainsi. L'ONG a étudié quatre thématiques à travers 52 textes et 150 votes. Ces quatre thèmes, c'est la préservation de l'océan et de la pêche artisanale, la lutte contre le changement climatique, la protection de la biodiversité et de l'agriculture durable, et puis la défense de la justice et des droits environnementaux. Et selon Bloom, le résultat de l'analyse est sans appel. Le Parlement donc est divisé en trois groupes très polarisés. Les bâtisseurs, c'est le groupe de la gauche écologique, formé des Verts, des sociaux et démocrates et de The Left. Et selon Bloom, c'est grâce à eux que l'Union européenne a pu obtenir des avancées importantes, telles que des normes d'émissions plus strictes pour les véhicules à moteur à combustion, une réglementation pour lutter contre l'importation en Europe des produits liés à la déforestation ou encore l'élaboration d'une loi sur le devoir de vigilance pour les entreprises européennes. À l'opposé, ce que Bloom appelle les casseurs, ce sont les groupes d'extrême droite et de la droite conservatrice qui, selon ce qu'indique l'étude, ont utilisé leur vote pour bloquer toutes les mesures en faveur de la planète, de la santé et des droits des citoyens et des travailleurs. Et puis enfin, il y a ceux qui sont nommés les hypocrites, c'est le centre droit Renew, pour la France ce sont les macronistes notamment, qui se divisent sur la plupart des votes cruciaux et que Bloom qualifie de coalition sans boussole stable et sans conviction sur les questions environnementales, mettant ainsi en péril des projets de loi essentiels et conduisant même parfois à leur rejet. Alors voilà, cette présentation un peu longue, mais pour savoir ce que dit cette étude, qu'est-ce que vous retenez les uns et les autres, et surtout en quoi c'est des enseignements intéressants de votre point de vue, Anne-Sophie Novel?
Ce qui est intéressant, c'est que c'est une approche très factuelle et très transparente. C'est-à-dire que si l'étude vous intéresse, Bloom a mis en ligne son outil qui s'appelle e-politics, avait vraiment cette volonté de dire, nous avons devant nous des chantiers essentiels que vous venez de détailler, que ce soit sur l'énergie, la biodiversité, l'océan et la justice sociale. Et quand on regarde les votes qui ont été effectués par pays, par groupe politique, voilà ce qu'il en est. Et donc je trouve que cet effort de transparence et de mise en avant des choix et des décisions prises, il est juste fondamental aujourd'hui pour notre démocratie. Alors c'est une ONG qui le fait, ça devrait peut-être être proposé de manière plus évidente, mais le rapport d'une trentaine de pages permet de mettre un peu les pieds dans le plat en disant d'ici 2-3 mois pour faire vos votes, si ces sujets-là sont importants pour vous, voilà ce qu'il en est des décisions qui sont prises par les personnes que vous allez élire. Et l'échelle européenne, on le voit aujourd'hui, on vient d'en parler, est déterminante pour ensuite voir ce qui est appliqué au niveau national et même parfois régional.
Adrien Loindre, c'est vrai que c'est pas évident de suivre au quotidien ce qui se passe au Parlement européen à Strasbourg ou à Bruxelles. C'est des textes compliqués, techniques, il y a des sujets divers. Et là, avoir ainsi un rapport qui propose quelque chose d'assez complet et accessible, est-ce que... Ah oui, alors Adrien apparemment a un problème technique. Bah, je vous renvoie la question, Benoît Hervieux-Léger. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être une aide pour les électeurs à l'approche du 9 juin?
Ben, je vous dirais oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, à la fois, oui, c'est-à-dire que c'est un tableau, c'est un panorama, bon, d'abord, qui est tout à fait intéressant et qui donne effectivement une bonne idée. Bon, c'est pas forcément étonnant venant de certains groupes. Bon, cette classification, elle est effectivement, elle met les pieds dans le plat. Elle est assez brute de décoffrage, mais elle s'appuie factuellement, effectivement, sur le résultat d'un certain nombre de votes, etc. Donc là-dessus, oui, c'est une bonne ouverture. Après, le gros problème, si vous voulez, c'est que dans le débat, alors notamment sur la question environnementale, sur le climat, etc., c'est que ça peut malheureusement nourrir encore une fois l'idée que de toute façon, alors que bon, si je prends par exemple l'exemple extrême des climato-sceptiques, je veux dire, leur grand argument, c'est que les gens qui parlent de réchauffement climatique, etc., de toute façon empruntent des biais idéologiques. Bon, comme si ça ne leur arrivait jamais. Bon, comme si c'était de toute façon, voilà, c'était que la science est idéologiquement biaisée. Et ça, c'est quand même un argument massu d'un certain nombre, bon, de l'extrême droite et des climato-sceptiques pour dire que, bon, sur le réchauffement climatique, soit on a tort, soit on exagère, etc. Donc, si vous voulez, à la fois, l'outil, l'instrument de cette étude est tout à fait intéressant et éclairant. Bon, le gros problème, c'est que est-ce que ça peut infléchir des opinions qui sont aujourd'hui justement à l'image du tableau lui-même, c'est-à-dire très très polarisées ? Ça, malheureusement, j'en suis beaucoup moins sûr.
Adrien Loindre ?
C'est une excellente question que vous posez. Mais c'est vrai que souvent, quand on discute d'écologie sur le terrain, on nous dit, mais finalement, est-ce que l'écologie, c'est de gauche ? Bon, eh ben, je reprends tout ce que vous disiez tous les deux. Factuellement, sur ces votes-là, l'écologie, c'est de gauche, plus de 19 sur 20 sur les trois partis de gauche. Bon, ça veut dire qu'au moins, ça vous laisse le choix entre les trois partis de gauche. On note quand même que Renew Europe est à 11,6 et que Renaissance est à 14. Donc, c'est un petit peu mieux pour La République En Marche, mais c'est quand même pas encore ça. Donc, je pense que ça, il faut le dire. Après, effectivement, est-ce que cette étude peut aller chercher des gens qui sont climato-sceptiques et qui sont bornés dans une contre-vérité scientifique, etc. Bon, eux, ils le seront toujours. Mais sur des gens qui peuvent se questionner, qui peuvent se dire, bah, finalement, l'écologie... En plus, cette étude-là, elle est intéressante parce que c'est pas juste l'écologie. Des fois, on dit, ah, mais votre écologie, c'est les petits papillons et les oiseaux. On voit bien qu'il y a beaucoup de questions sur la justice sociale, etc. Donc c'est aussi assez intéressant là-dessus. Mais ça montre bien aussi dans cette étude que quand le Rassemblement National, moi ça m'a beaucoup surpris dans cette étude limite, c'est que le Rassemblement National c'est deux fois moins que Reconquête en termes de pourcentage, c'est-à-dire que Reconquête est à 7 et le RN à 3, ce qui montre bien que ils avaient présenté le Rassemblement National un document sur en parlant de plus de 100 pages sur c'est quoi l'écologie pour nous, ça montre bien que c'est du flan, que leur discours sur le localisme c'est du flan. Et je voudrais finir là-dessus, quand le RN et les climato-sceptiques par exemple parlent d'écologie punitive, en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que l'écologie punitive c'est eux. Ceux qui vont punir les plus pauvres, parce que les questions climatiques, encore une fois, c'est pas juste les papillons, c'est concrètement sur les terres, dans quelques années, même en réalité même tout de suite, c'est des gens pauvres qui sont les premières victimes de réchauffement climatique et de l'effondrement de la biodiversité. Donc l'écologie punitive, c'est eux.
Mais à vous entendre, oui, Anne-Sophie Novel.
Non, j'aimerais juste rebondir là-dessus parce que c'est vrai que, en fait, quand on s'intéresse à la sémantique et aux messages qui sont diffusés, il y a un discours d'inaction climatique qui est porté par l'extrême droite, où finalement on va accuser l'écologie d'être punitive et donc il ne faudrait pas mettre en place les mesures préconisées sous prétexte de pénaliser les personnes les plus en difficulté. Et en même temps, ce n'est pas un parti parti qui va cibler les plus riches et les personnes qui ont le plus de moyens et qui ont le plus aujourd'hui d'impact. Donc c'est un discours qui est vraiment dans l'inaction, parce que sous prétexte de défendre les plus pauvres, sans agir sur ceux qui sont les plus responsables, eh ben on ne fait rien. Et ça, je pense qu'il faut. Ce rapport de Bloom permet quand même de montrer factuellement ce qui se passe.
Benoît Hervieux-Léger.
Peut-être aussi que, bon, pour être un petit peu plus optimiste que tout à l'heure, c'est que malgré tout, je pense que, mais c'est justement d'ailleurs, Anne-Sophie a employé le mot à l'instant, sémantique. Bon, d'ailleurs, petite info que je vous donne, c'est que la revue Projet travaille en ce moment pour sa 400e édition sur un numéro qui s'appelle Écologie, les langages de la transition. Donc c'est aussi une affaire de langage. Bon, et il y a de quoi dire, croyez-moi. Pour être un petit peu plus optimiste, c'est-à-dire que quand même, bon, malgré tout, si on regarde, bon, les études d'opinion, il faut toujours s'en méfier un petit peu, mais quand même, bon, les opinions, et notamment européennes, les opinions publiques européennes, sont quand même globalement conscientes de l'enjeu climatique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nier aujourd'hui que, bon, il y a une prise de conscience qui infuse. De toute façon, en plus, bon, que ce soit la question des précipitations, que ce soit effectivement l'épuisement, par exemple, des nappes phréatiques, que ce soit. Il y a quand même des éléments très concrets aujourd'hui qui nous disent que oui, la question climatique, elle est posée, qu'on ne peut plus l'ignorer. Donc, on peut espérer, si vous voulez, à l'appui aussi de l'étude de Bloom, cette prise de conscience aussi, elle se traduise au sein des... peut-être lors du vote des européennes, même si... Bon, là aussi, on donne beaucoup les partis d'extrême droite en très bonne position.
Mais je me dis à vous écouter qu'il y a quand même un souci. C'est qu'imaginons qu'un auditeur ou une auditrice de droite qui nous écoute, qui, comme vous le dites, Benoît, fait partie de cette partie de l'opinion publique qui est vraiment conscientisée sur les enjeux écologiques et qui pense sincèrement qu'un changement doit intervenir, mais qui se dit « mais moi, je suis de droite, ma vision du monde, elle est de droite, et donc je ne peux pas voter à gauche. » Et pourtant, même si je constate que c'est plutôt les partis de gauche qui portent l'écologie, il fait comment cet auditeur-là, elle fait comment cette auditrice-là qui veut se lancer dans une réponse ?
Grave question.
La question, c'est de mettre à plat, en fait, ses convictions. La réflexion, c'est est-ce qu'on dit on est de droite ou de gauche, ou est-ce qu'on se dit qu'est-ce qui est important pour moi demain, pour mes enfants demain, pour mon bien-vivre demain ? On est rentré dans une décennie critique, dans un nouveau régime climatique. Et on l'a dit, ce qui est compliqué, c'est des histoires aussi de gardiens de la raison qui vont instrumentaliser les sciences, qui vont dire que les scientifiques, même eux, sont de dangereux écoterroristes. Enfin, c'est tous les discours auxquels on est soumis depuis quelques mois et qui montrent bien qu'on est rentré dans un rapport de force qui me semble, moi, aujourd'hui nécessaire et qui montre bien que du fait scientifique lointain au fait social qui nous impacte aujourd'hui et au fait politique sur lequel on doit maintenant éclairer la décision publique, on est arrivé à un stade où on doit revoir le logiciel de pensée. Il y a plein de personnes qui, aujourd'hui, modifient leur façon d'agir à titre personnel ou professionnel, et qu'on a bien compris qu'on ne peut plus agir comme avant. Alors c'est peut-être compliqué, ça nous bouscule, ça nous change dans notre zone de confort, mais ça ne veut pas dire que l'on va aller dans une période rétrograde, comme certains aimeraient le faire entendre, à s'éclairer à la bougie ou circuler en charrette. Non, il y a plein de belles choses à inventer. Mais pour moi, c'est juste factuellement, c'est prouvé. C'est en effet, l'écologie est plus portée par des partis de gauche que de droite, mais il faut aussi s'interroger sur la viabilité de ce qu'on porte. Et on atteint aujourd'hui un certain nombre de limites. Et l'économie, la croissance, par exemple, qui sont des gros sujets, doivent être regardés autrement. Et cet autrement-là, c'est là que ça mérite de se dire, est-ce que je peux continuer à voter pour des partis qui ne vont nous amener dans le mur, quoi qu'il arrive ?
Regarder autrement et se demander ce qui est important. Je me demande ce qui est important pour moi. Merci pour cette invitation-là pour clore ce sujet, parce qu'il faut qu'on passe au suivant. Oui. Et je rappelle que le rapport de Bloom est disponible sur leur site internet si ça vous intéresse et si vous voulez regarder ça dans le détail, justement, avec cette question un peu qu'est-ce qui est important pour moi comme clé.
Je pense, donc j'agis. Anne Kerléau.
Dernier sujet de cette émission, les PFAS. PFAS, les perfluorés. Alors, c'est très dur à dire, je vais essayer. Perfluoroalkylés et polyfluoroalkylés. Je pense que je le prononce pas correctement, mais enfin, on va dire leur petit nom. Donc, les PFAS, ces polluants éternels, ce sont des substances chimiques à longue durée de vie qui peuvent contaminer la nourriture et s'accumuler dans notre corps. Ils sont sous les feux de l'actualité pour différentes raisons. À Lyon, la métropole attaque en justice deux géants de la chimie. Elle accuse de rejeter ces substances et auxquelles elle veut voir s'appliquer le principe de pollueur-payeur. Et une action a été menée début mars par Extinction Rebellion et Youth for Climate contre l'une de ces deux entreprises, Arkema. Et puis le 4 mars, la préfecture du Rhône a demandé aux habitants de Pierre-Bénite, la zone proche de cette entreprise, de ne consommer ni eau ni fruits et légumes de leur potager à cause des risques de contamination au PFAS. Et puis par ailleurs, une proposition de loi visant à interdire ces polluants éternels sera débattue à l'Assemblée le 4 avril, c'est la semaine prochaine. Cette proposition est portée par le député écologiste de Gironde, Nicolas Thierry. Ce dernier a lancé une étude auprès de 152 personnes dont les cheveux ont été analysés et le résultat c'est que 94% d'entre elles sont contaminées par au moins un composé de cette famille toxique. Et vous l'avez peut-être vu, pour médiatiser le sujet, bien parmi ces 152 personnes, il y avait 13 personnes plus connues, 13 personnalités. Il s'avère que sur les 13, 10 sont contaminées. Parmi elles, il y a par exemple Nagui ou la comédienne Mélanie Laurent, l'activiste du climat Camille Etienne, qu'on a pu entendre sur le sujet, qui disent qu'elles sont contaminés au PFAS. Alors d'abord peut-être Anne-Sophie Novel, pour savoir de quoi on parle, est-ce que vous pouvez nous faire un peu les PFAS pour les nuls, qu'est-ce que c'est que les PFAS?
En fait, peut-être que les auditeuristes ont vu ce film Dark Waters qui retrace l'histoire de Robert Bilott, qui est un avocat qui aux États-Unis s'est emparé de cette question, alerté par des éleveurs dont les bêtes avaient été sont tombées malades en raison d'une pollution liée à une usine qui produit du téflon. Et en fait, en France, c'est le journaliste Martin Boudot pour Vert de Rage qui est le premier à dénoncer ce qui est en train de se passer du côté de Lyon. Au niveau de l'usine Arkema. Et l'an dernier, les journalistes du Monde, et notamment Stéphane Aurel, qui ont aussi, toute une base de données analysé la pollution en Europe par ces polluants éternels. Donc ce sont des produits qu'on retrouve dans plein d'objets de notre vie quotidienne. Ça va du dentifrice aux emballages alimentaires, aux revêtements de certaines poêles, en effet. C'est très difficile de s'y soustraire. Il y a une réglementation qui, aujourd'hui, interdit certaines substances, mais les industriels ont toujours su s'adapter. Même si on dit sans PFOA, par exemple, sur vos ustensiles de cuisine, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres types de polluants éternels. Et je sais que Mediacité a aussi sorti une enquête ce week-end avec un nouveau collectif de journalistes pour expliquer ce qui se passe. Et c'est tout l'enjeu de ce qui doit être décidé prochainement pour une interdiction qui, en fait, nous protégerait toutes et tous plus qu'on ne l'est aujourd'hui, parce qu'on est tous, en effet, contaminés. Et Camille Etienne vient de faire un documentaire pour retracer cette histoire qui est disponible sur Internet. Donc si ces sujets vous intéressent, c'est assez, ça vulgarise bien la question.
Et quel est l'impact sur la santé? Est-ce qu'on le connaît ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui est à découvrir et à venir et dont on a l'intuition?
C'est un ensemble de maladies, de cancers, en fait, hein, généralement, qui se développent. C'est aussi lié aux perturbateurs endocriniens. Donc, c'est toute la question de la santé environnementale qui, hélas, aujourd'hui, est encore trop largement sacrifiée par les pouvoirs publics. Et pour moi, c'est un peu le manque de considération qu'on a aujourd'hui pour à la fois la santé de l'environnement, la santé animale et la santé humaine. C'est tout l'enjeu de ce qu'on appelle une seule santé, qui est documentée depuis maintenant 25 ans, mais qui ne pousse pas pour autant le gouvernement à prendre des décisions. Et d'ailleurs, je crois que Stéphane Aurel, c'est ça qui m'a intéressée ce week-end en regardant le documentaire de Camille Etienne et Solal Moisan, c'est qu'elle parle de crimes facilités par les pouvoir public, de crime environnemental facilité par le pouvoir public. Donc ça veut dire qu'on, en fait, c'est ça qui est en fait surprenant dans la période qu'on traverse aujourd'hui, c'est qu'on a des sciences qui documentent la catastrophe en cours sur tout un tas de sujets et qu'on n'est pas pour autant capable de prendre des décisions éclairées au regard de ce que l'on sait. Donc on n'arrive pas à croire ce qu'on sait. Et ça, c'est un vaste champ de réflexion qui devrait justement nous réveiller un petit peu. Et donc les PFAS sont comme multiples problèmes aujourd'hui auxquels on est confronté. C'est-à-dire qu'on sait ce qui se passe, on sait qu'il y a des liens avec la santé environnementale et pour autant, le système ne bouge pas pour nous protéger.
Benoît Hervieux-Léger.
Ben justement, pour prolonger un peu le propos d'Anne-Sophie, c'est-à-dire que bon, là, il va y avoir effectivement une proposition de loi pour interdire les PFAS. Mais qu'est-ce qu'on fait en amont par rapport à des modes de production, par rapport à des façons de produire, par rapport à... Et là, en plus, si vous voulez, donc là, il y a effectivement un modèle de production qui est problématique, et ça, on ne pose pas suffisamment la question en amont. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, pour revenir à Bloom, à l'étude Bloom de tout à l'heure, que oui, effectivement, il y a une catégorie d'hypocrites qui déplorent les effets, mais qui ne s'attaquent pas aux causes. Bon, et donc ça, c'est déjà un vrai problème. D'autre part... Et ça peut mobiliser beaucoup les consciences. C'est la question, effectivement, de la santé publique. Bon, la santé publique, c'est quand même... Bon, voilà, c'est... Encore une fois, c'est nous toutes et tous. C'est un enjeu qui est assez énorme. Et ça, c'est vraiment un levier par lequel, effectivement, la conscience écologique peut encore mûrir. C'est-à-dire, regardez même... je dis ça peut-être parce qu'il est en Guyane en ce moment, mais le président de la République est sur place. Regardez, par exemple, il y a eu des études, par exemple, autour de l'orpaillage et l'utilisation du mercure, etc., dans les rivières. On s'est rendu compte que, par exemple, des femmes enceintes dans ce territoire de la République française étaient 40 fois plus élevées que le même taux pour une femme de la métropole. Bon, ça donne quand même une idée, effectivement, de véritables enjeux sur lesquels, la conscience peut progresser parce qu'effectivement, c'est la santé de tout un chacun qui est en jeu. Mais effectivement, en amont, et ça, encore une fois, ça reste un impensé, c'est des modèles de production et ça vaut dans tous les domaines.
Adrien Loindre.
Oui, je serais complètement à ce qui était dit sur les modèles de production, dans le sens où on ne peut pas juste changer d'un claquement de doigts, ça se fait un peu partout. Là où je voudrais insister, c'est que je vais prendre un axe plutôt sur la forme, de dire ce que je trouve qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que à la fois vous avez au niveau local la métropole de Lyon qui fait quelque chose. Vous avez des personnes qui vont faire monter, grâce à des personnes qui aussi font monter le débat dans l'espace public, grâce à des journalistes qui vont faire super bien leur travail et qui font de l'investigation et qui, du coup, permettent de sortir un sujet dans le débat public. Et puis, vous avez une proposition de loi qui est à l'Assemblée nationale. On voit aussi l'intérêt, même pour reprendre un peu au niveau européen, là, c'est pas le sujet, mais il y a quelque chose aussi d'intérêt de mettre des normes. On met pas des normes pour embêter les gens, on met des normes ici pour leur santé. Anne-Sophie l'a très bien dit. Et donc, ce que je trouve qui est sur la forme, très beau dans cette histoire, au-delà des PFAS, parce que moi non plus, j'arrive pas à les prononcer, on pose aussi souvent cette question, oui mais attendez, moi je comprends pas, mon vote il a pas l'intérêt, comment je fais pour agir sur le terrain, c'est trop compliqué, etc. Et bien là, on voit bien qu'énormément de personnes sur des espaces différents se sont engagées sur quelque chose et font avancer très concrètement les choses, et ça je trouve que c'est très positif, ça montre que là l'auditeur, l'auditrice peut se dire, moi aussi pour ce sujet-là ou pour X autres sujets, je peux m'engager dans un collectif pour faire changer les choses.
C'est vrai que là, on voit une grande diversité d'acteurs, vous l'avez dit. Et du coup, peut-être que ça vient éclairer d'une manière un peu nouvelle toutes les questions qui se posent autour de, notamment, des luttes jugées un peu comme, présentées un peu comme radicales, souvent. Adrien, vous, par exemple, à lutte et contemplation, c'est une question que vous posez aussi et à laquelle dont vous êtes partie prenante, adopter parfois des moyens jugés radicaux. Là, c'est comme s'il n'y avait pas d'opposition, mais au contraire, on peut avoir une lecture d'une complémentarité des choses, c'est ça que vous nous disiez. Anne-Sophie Novel, comment vous réagissez à ça?
Je pense que c'est très juste, en fait. On a beaucoup stigmatisé le petit geste individuel et à raison.
Il y a eu une communication gouvernementale qui, l'an dernier, nous disait de mettre des pulls col roulé ou de faire pipi sous la douche, et qui, par derrière, ne prend pas les décisions voilà, qu'il faudrait, structurelles, hein, j'entends, pour modifier les choses. Les chercheurs, alors du GIEC notamment, mais pas seulement, documentent ce qui se passe et montrent à travers leurs études les priorités qu'il nous faudrait suivre en disant voilà, on a une fenêtre de tir pour agir avant qu'on bascule dans une situation qui sera peut-être immaîtrisable et qui nous coûtera plus cher. Et donc, comment est-ce qu'on atténue, comment est-ce qu'on adapte nos modes de vie? Voilà, et il est important de rappeler en effet que bah, tout type d'acteur peut agir aujourd'hui à sa mesure. Il y a des personnes qui ont un pouvoir plus important que d'autres. Mais c'est là que moi, je trouve intéressant la période que l'on traverse, parce qu'elle est difficile. Elle crée une grande éco-anxiété, mais cette éco-anxiété doit être doit engendrer de l'action. Et réinvestir le champ politique aujourd'hui, au sens noble du terme, c'est dire ben, je prends ma part. Et au-delà des enjeux européens qu'on a beaucoup abordés ce matin, je crois qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire en local. Et toujours voilà, se rendre compte aussi que là, on parle par exemple de l'autonomie qui doit être redonnée aux collectivités locales. Et ben, c'est justement l'occasion de se dire, ben, localement, voilà ce que je peux faire. Et des activistes comme Camille Etienne ou d'autres ne cessent de rappeler qu'ils sont peut-être des porte-voix puissants aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux, parce qu'ils sont très suivis. Mais à l'occasion des élections européennes, à l'occasion des élections municipales, à l'occasion voilà, d'un certain nombre d'échéances de cette nature-là, il faut faire des choix. Parce que boycotter aujourd'hui les instances démocratiques, quand bien même elles sont un peu fatiguées et inefficaces par instant, par moment, ces instances démocratiques fonctionnent quand même un minimum. Et le bulletin de vote que l'on va mettre a des conséquences par la suite dans un certain nombre de décisions qui nous sont imposées dans les 5-6 ans qui suivent. Donc c'est important de faire ce lien et de se dire, bon ben voilà, je ne suis peut-être pas très motivée, mais si je ne prends pas ma part de citoyenneté à cet endroit-là, je vais subir des choses qui ne seront peut-être pas convenantes pour la suite.
Je pense, donc j'agis, Anne Kerléo.
Il nous reste 3 minutes. On va terminer cette émission par une rubrique qu'on a baptisée Les oubliés de l'actu. On propose à chacun d'entre vous d'évoquer en une minute un sujet lié à l'écologie et qui est peut-être passé inaperçu ou pas d'ailleurs, mais qui vous paraît en tout cas intéressant. Et puis, bah, comme on n'a pas beaucoup de temps, vous pouvez aussi utiliser cette minute peut-être pour nous parler de votre actualité, de celle de la revue Projet par exemple, mais peut-être d'autres choses que vous avez envie de nous dire. On commence par vous, Benoît Hervieux-Léger.
Bah écoutez, moi j'ai déjà peut-être épuisé ma minute puisque je vous ai annoncé effectivement ce sujet qui va faire l'objet de notre numéro 400 qui paraîtra au mois de juin, voilà, sur écologie, les langages de la transition.
Et on en reparlera très probablement.
Et on en reparlera, rendez-vous à tout le monde bientôt.
Adrien Loindre.
Oui, sur les côtés des oubliés de l'actu, je voulais surtout dire que l'engagement politique, c'est très très important, puisqu'il y a des victoires parfois, et notamment on voit le Brésil annoncer la chute de sa déforestation de manière radicale depuis 2018, je crois que c'est plus de 60%, j'ai plus le chiffre exact, donc ça montre que ça marche. Et alors, faudrait beaucoup nuancer ce chiffre, parce que c'est très conjoncturel, mais quand même, on a 4,6% de baisse des émissions de gaz à effet de serre de la France sur cette année dernière, donc ça montre quand même qu'on peut avancer. Et sur l'actu rapidement de lutte et contemplation, on en a déjà parlé sur RCF, mais vraiment notre campagne sur le désinvestissement fossile des énergies fossiles de l'Église, c'est vraiment notre grosse campagne en ce moment.
Anne-Sophie Novel.
Ben, on a beaucoup parlé de Bloom, mais je vais reparler d'eux parce qu'ils lancent aujourd'hui une coalition citoyenne pour la protection de l'océan. Et j'insiste là-dessus parce qu'en fait, la France a une immense responsabilité sur cette question en raison de l'ensemble des littoraux que l'on a notamment dans les Drom-Tom. Et aujourd'hui, nous n'avons pas assez de mesures d'urgence pour arrêter de détruire cet espace qu'est l'océan. Et l'UNESCO a alerté sur le fait que l'océan pourrait bientôt émettre plus de carbone qu'il en absorbe. On sait aujourd'hui que c'est notre meilleur allié par rapport à la lutte climatique. Et donc, il est urgent d'agir. Et donc, cette coalition est lancée aujourd'hui. Et je vous invite à vous renseigner sur ce sujet parce qu'on a tendance à l'oublier. C'est dans des profondeurs, on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Et pourtant, il y a le feu aujourd'hui.
Merci à tous les trois d'être venus avec nous et éclairer l'actualité ce matin. On vous retrouvera bientôt les uns et les autres. On vous invite à aller lire les livres d'Anne-Sophie Novel, à aller lire la revue Projet, celle qui vient en juin, mais les autres qui sont toujours disponibles. Et puis Adrien Loindre, je sais pas, pour l'instant rien à lire, mais ça viendra peut-être. Vous nous direz ça plus tard. C'est la fin de cette émission. Merci aussi à Antoine Picot, à La Technique et à Radio Notre-Dame pour le duplex. Je vous retrouve dans un instant pour l'émission Comme une conversion. Ce matin, je vous invite à rencontrer le politologue et militant écologiste Bruno Villalba pour une conversation passionnante autour de l'écologie politique. Bonne journée à toutes et à tous.